Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission Les coulisses de la mémoire. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui a été écrit par Michel Piccoli, J'ai vécu dans mes rêves. Michel Piccoli avec le concours de Gilles Jacob, l'ancien directeur du Festival de Cannes. Alors Michel Piccoli, je pense que ça dira quand même beaucoup de choses à beaucoup de gens. Il a quand même tourné plus de 200 films. Il a joué au théâtre. Il a été nommé 4 fois pour les Césars. Il n'a jamais eu la récompense. Il a été nommé 2 fois pour les Molières. Il n'a jamais eu de récompense. C'est quand même assez étonnant quand on voit à qui sont attribuées ces récompenses-là. Voici comment, dans son livre « J'ai vécu dans mes rêves », il raconte sa naissance. « Je suis né par hasard et par compensation. Je vous explique, mes parents avant moi avaient eu un enfant, un garçon, qui n'a pas survécu. Ce frère aîné disparu avait été une passion pour ma mère. Et à la suite de cette perte, elle s'était dit qu'elle n'aurait plus jamais le courage d'avoir une famille, autrement dit d'avoir un autre enfant. Elle m'a tout de même fabriqué. Sans doute suis-je très chanceux d'être né, quoiqu'à bien considérer ces circonstances, je peux aussi me dire que j'étais mal parti. Ce n'est pas confortable d'avoir à se penser comme un enfant de substitution. C'est pourtant un fait que j'ai toujours en tête. Je n'aurais pas été conçu et je n'aurais jamais vécu si mon frère n'était pas mort. Je suis son remplaçant. Pendant toute mon enfance, resté fils unique, j'y avais donc ce fantôme avec moi et j'ai quelquefois l'impression que ma mère, qui parlait peu, ne se manifestait que pour évoquer ce frère mort. J'entends encore sa voix, ton petit frère, ton petit frère, ton petit frère. Bien qu'il soit né avant ma naissance, je dois dire que je n'ai jamais cessé de penser à lui comme un petit frère dont je serais en quelque sorte devenu l'aîné qui m'aurait laissé seul. Aujourd'hui encore, j'y pense de cette manière, je continue à me poser les mêmes questions. Pourquoi n'a-t-il pas survécu? Quelle est cette maladie inconnue dont il est mort? Que signifie ma venue au monde à la place de ce petit frère? C'est une origine qui vous marque de manière indélébile. Elle détermine la relation que j'ai nourrie avec mes parents, qui s'est développée sur un monde assez angoissant, en particulier avec ma mère, ton petit frère, ton petit frère, ton petit frère. J'ai eu souvent envie de crier « Assez !» Oh, au-delà de l'anecdote de cette naissance hasardeuse, je ne sais pas grand-chose de certain. D'une manière générale, l'histoire de ma famille me semble lointaine, évanouie, il ne reste que des brides. Mon père était violoniste, ma mère pianiste, lui était membre de l'orchestre Colonne, un troisième violon dans cette formation où il a joué pendant 50 ans. Il travaillait tout le temps, quand les vacances arrivaient, ce n'était pas pour se reposer, nous allions à Dieppe où mes parents louaient tous les étés la même maison. Quand mon père jouait dans l'orchestre du casino, devant un public qui n'écoutait pas, mon souvenir de ces vacances n'est pas très bucolique, c'est celui de ma mère agacée, se plaignant que pour aller aux toilettes, il lui faille aller dans la cabane au fond du jardin. Cette mère, si facilement mécontente, était donc, elle aussi, musicienne. Elle avait fait des études de piano très sérieuses, très sévères. Elle jouait très bien. Je la revois assise devant son instrument dans le salon, lequel était en même temps d'ailleurs ma chambre, puisque c'est là que je dormais sur le divan. Mais ses souvenirs sont rares. Elle jouait fort peu pour elle-même, pour le simple plaisir de jouer. Elle aurait souhaité être soliste, une virtuose, mais elle n'y est pas parvenue. Elle est devenue professeure de musique. Son piano lui aura finalement donné une activité qu'elle a exercée sans passion ni enthousiasme. Pour elle, la musique n'était plus un art. Pendant mon enfance, j'avais le sentiment que pour gagner son argent, ma mère devait faire répéter à ses élèves la même exercice tous les jours, un métronome qui ne s'interrompt jamais. À propos du piano, je me viens un souvenir qui pèse dans la mémoire de mon enfance. Ma mère, qui avait voulu m'apprendre à en jouer, n'arrivait à rien avec moi. Je ne voulais pas apprendre. Les mains sur le clavier, toutes les sensations m'étaient pénibles. Le plaisir n'était jamais là et je ne progressais décidément pas. Quand elle m'a demandé pourquoi je rechignais un temps à travailler mon piano, je lui ai dit que mes yeux souffraient, que je voyais mal. Elle m'a tout de suite emmené chez le médecin qui, après m'avoir ausculté, a conclu que je n'avais aucun problème de vue. Je n'avais fait que chercher une excuse pour éviter d'avoir à m'entraîner. Ma mère a cédé, elle a décidé que je n'apprendrai finalement pas le piano. Aujourd'hui, je regrette qu'elle n'ait pas insisté. Le piano abandonné, je ne suis pas passé au violon. Je ne crois pas que mon père ait voulu me l'apprendre, tant mieux. Cela m'aurait rendu fou d'essayer de manier correctement un instrument si difficile. Je n'ai aucun souvenir de mon père et de ma mère faisant ensemble de la musique pour le plaisir. Mes parents n'étaient pas très amoureux de leur activité. Mon père travaillait beaucoup son violon, mais comme un métier qui le fatiguait. C'était une sorte de fonctionnaire de la musique, très organisé, très discipliné, mais aucune passion ne s'exprimait. Je suis le résultat de parents artistes qui n'ont pas su m'initier à l'art. Comment peut-on vivre en exerçant une discipline artistique comme la musique sans joie ni passion? Le souvenir un peu terne de mes parents contraste avec celui lumineux de mon oncle, le frère de mon père, lui aussi violoniste et de sa femme, elle aussi pianiste. Ils formaient un couple qui m'intriguait, m'intéressait davantage que celui dont j'étais issu. Il représentait l'envers positif de mes parents. S'il faut chercher mon influence, mon modèle, c'est sans doute de ce côté. Au cours de sa carrière si longue, Michel Pécouille a eu l'occasion de rencontrer des comédiennes et comédiens d'exception. Et il en parle dans son livre « J'ai vécu dans mes rêves ». Voici ce qu'il écrit à propos de Brigitte Bardot, avec qui il a tourné « Le mépris » de Jean-Luc Godard. Quant à Brigitte Bardot, la grande star qui faisait fantasmer le monde entier, le premier souvenir que j'ai d'elle, c'est une absence. C'est surprenant mais exact. Brigitte Bardot était si impressionnée par le renom de Fritz Lang, qui joue dans le film, qu'elle s'était cachée, avait disparu au moment où on devait le lui présenter. Vous voyez, on est loin de ce que le nom de Bardot laisse imaginer. Comme vous le savez, Bardot n'est pas une idiote. loin de là. Elle avait lu le livre, même si certains des choix de Godard lui paraissaient incompréhensibles, elle voyait et se disait qu'elle jouait dans un film extraordinaire. Je n'avais jamais rencontré Bardot avant le tournage et j'ai été ébloui par son innocence et sa spontanéité. Elle avait une énergie formidable. Elle était, devant les caméras comme dans la vie, une actrice très simple, qui ne faisait pas du tout la star. Elle était très disciplinée dans son travail, elle était à l'heure, elle connaissait son texte. Elle était vraiment très sérieuse, très précise. Voici maintenant aussi ce qu'il écrit à propos de sa partenaire dans un des films les plus célèbres de la deuxième moitié du XXe siècle, Romy Schneider. Romy Schneider était merveilleuse. Nous nous sommes tout de suite bien entendus et nous sommes devenus très proches, très complices, mais avec un grand respect entre nous. Elle était radieuse et magnifique. Je l'appelais Lacheleux, elle savait que j'aimais me moquer d'elle et elle aimait ça. Lacheleux, c'était le genre de chose qui la faisait rire comme une folle. Elle en riait parce que j'osais me comporter avec elle, autrement que tous ses prétendants et amoureux. L'ai-je aimé? Non. Je n'ai jamais été amoureux de Romy, mais je l'ai bien connue. J'ai vite compris qu'elle n'arrivait pas à être heureuse, qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait faire pour l'être. C'est l'actrice dont j'ai été le plus proche, celle dont j'ai le mieux connu les douleurs, la vie. Elle était toujours en inquiétude. Je me demande si elle est allée au bout de cette puissance. Elle était très faible. C'était une de ces vies qui sont pleines de chagrin. Tout devenait douloureux très vite, j'ai deviné. Et quand on s'est davantage connu, elle me l'a dit. Elle me l'a avoué. De sa naissance à sa mort, elle n'a jamais été heureuse. Elle a parfois cru être heureuse, mais n'a jamais vraiment été. Elle a sûrement eu de grandes et authentiques passions amoureuses et beaucoup de malheurs. Sauté était amoureux fou de elle. Et j'ai tourné deux fois dans Les choses de la vie et dans Max et les ferrailleurs. Voici à présent ce qu'il écrit à propos de celle qui fut sa deuxième épouse, Juliette Gréco. Bien sûr, il est plus facile de parler des amours que des amours. Mais tout de même quelques mots pudiques, j'espère, à propos de Juliette Gréco. Je l'ai rencontrée dans une soirée, je me suis assis à côté d'elle. Nous ne nous connaissions absolument pas. Nous sommes parlés en tête à tête. Nous nous sommes découverts l'un l'autre. Tout s'est d'abord déroulé avec une sagesse exemplaire. Nous nous sommes attendus. Nous nous sommes revus. J'ai dû patienter avant de pouvoir être avec elle. Nous avons fini par vivre ensemble. Un jour, elle m'a dit que c'était fini. Elle avait en tête un homme. Ils étaient très amis. Petit à petit, le lien a changé. Je n'ai pas fait le puissant, je me suis éloigné. Puis un jour, elle m'a dit va-t'en. Presque de cette façon. Ça a été douloureux, de mon côté en tout cas. Quand nous vivions ensemble, je la suivais parfois dans ses tournées. J'aimais ça, nous avions une vie agréable. La fin est arrivée. Mais je crois que j'ai suffisamment répondu à cette question impudique. Je vous remercie de m'avoir écouté.